Une vie, une œuvre, Grigori Yefimovitch, dit Rasputin. 1869, Pokrovskoïe, 1916, Petrograd. De son père, charretier en Sibérie, Rasputin a peut-être hérité le goût de la nature. Ses parents sont mariés depuis 7 ans, quand il naît. Plus tard, son frère aîné et lui tombent dans l'eau glacée. L'un meurt, l'autre, Rasputin, endure une simple pneumonie. Dans le village, il est considéré comme étrange, entre anormal et voyant. L'adolescence fait de lui un errant. Starets pour les uns, vagabond pour les autres. À presque 20 ans, il épouse Praskovia Fyodorovna. Trois de leurs 5 enfants survivront, Matryona, Vavara et Dimitri. Aaron Simanovitch le décrit ainsi. Il était de taille moyenne, vigoureux et large d'épaules. Ses yeux, d'un gris d'acier, étaient profondément enfoncés sous l'arcade sourcilière. Son regard était ferme et pénétrant. Une force de suggestion s'y cachait. Sa chevelure était brune, épaisse et lourde. Dès 1903, il commence à prendre le chemin de Saint-Pétersbourg et du palais impérial. Stéphane Bonnefoy signe avec Rafik Zénine « Une vie, une œuvre », Grigori Yefimovitch dit « Rasputin ».
J'ai une photo, c'est son portrait, on dirait en fait d'une espèce de reproduction entre la photo et le dessin. C'est une gravure qui date de décembre 1921, et ça vient de Vienne 4. Je pense que c'est un 4e arrondissement, c'est marqué Favoritenstrasse numéro 4. Elle est dans les tons gris bistre. Elle représente le buste de Grigori Yefimovitch, tel qu'en lui-même, il a les cheveux coupés courts sous les oreilles. Et là, je trouve son regard empreint de bienveillance. On lui trouve un air sérieux quand je le montre, mais en fait, moi, je lui trouve l'air grave plutôt.
C'est un personnage très très ambigu. On a de lui le récit d'un type absolument crasseux, aux ongles noirs, la barbe pataillée, habillé avec n'importe quoi, avec des loques, et en même temps, les récits d'un dandy. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages, il est certain qu'il s'est civilisé, mais qu'en même temps, existait en lui un second personnage. C'était ce qui montre une grande duplicité ou une grande intelligence des situations.
On a construit un diable. Alors, voilà, je suis l'arrière-petite-fille du diable. Ça me fait rire, mais bon, c'est comme ça.
Жизнь и творчество Распутин.
Распутин, un moujik à Petrograd. Stéphane Bonnefoy, Rafik Zénine.
Je pressens que je quitterai la vie avant le 1er janvier. Je vais faire savoir au peuple russe, à papa, à la mère russe et aux enfants, à la terre russe, ce qu'ils doivent entreprendre. Si je suis tué par de vulgaires assassins, et notamment par mes frères les paysans russes, toi, tsar de Russie, tu n'as rien à craindre. Tsar de la terre russe, si tu entends le son de cloche qui t'apprendra que Grigori a été tué, tu dois savoir ceci. Étaient-ce tes parents qui accomplirent ma mort ? Alors personne de ta famille, c'est-à-dire aucun de tes enfants ni de tes parents, ne restera en vie plus de 2 ans. Ils seront tués par le peuple russe. Je m'en vais, Grigori.
C'est un texte dont personne n'a entendu parler avant 1931, avant l'ouvrage de Simanovitch, et qu'il est le seul, paraît-il, à avoir conservé. Enfin, c'est
Alexandre Zumpf.
C'est l'histoire traditionnelle du manuscrit trouvé dans une caisse, dans un grenier, et que c'est les lettres portugaises. Si vous voulez, c'est une mystification. Un petit peu d'ailleurs comme le dossier secret de l'historien Radzinski. Mais tout le monde y accorde foi. Comment un texte, enfin moi je veux bien, même le Christ n'a pas fait des prophéties aussi lumineuses, donc il y a quand même des limites à la lucidité d'un homme. Si vous voulez, le texte, pour être crédible, manque de quelques erreurs. Tout ce qu'il dit est arrivé, et ça montre bien qu'il est faux.
On ne pouvait pas échapper à cette inquiétude qui a commencé à grandir à partir de 1915-1916, quand la guerre a commencé à mal tourner.
George Adamovitch, 1965.
Et on sentait quelque chose d'inévitable qui devait venir. Je pense que le moment qui m'a frappé le plus et le plus impressionné à l'époque qui a précédé la Révolution, c'était l'assassinat de Raspoutine. Je me souviens très bien de la nuit où on a appris que Raspoutine a été assassiné. Et tout le monde se demandait, est-ce vrai, qui a tué Raspoutine? On savait qu'un grand-duc a trempé dans l'assassinat. On savait qu'un membre de la Douma, de l'extrême droite, et c'est très caractéristique que ce coup porté à la monarchie a été porté par des gens de l'extrême droite. Tout le monde était inquiet et tout le monde pensait que c'est quelque chose de fatal.
Vous, en tant que biographe, Alexandre Zumpf, vous vous êtes imaginé physiquement ce personnage. Comment est-ce que vous le verriez au-delà des photos dont on dispose?
C'est difficile, justement, parce que ces photographies, elles sont souvent mises en scène avec probablement l'assentiment et même la décision de le faire par Raspoutine lui-même. Et les témoignages même ne concordent jamais. On ne sait pas s'il est grand ou petit, on ne sait pas s'il a l'œil torve ou fixe, on ne sait pas s'il a une bosse ou non sur le front. Tout ce qu'on sait et qu'on voit, c'est qu'il est relativement hirsute, qu'il est très très barbu, qu'il a des mains assez fines et longues dont il sait se servir dans ses rôles de composition. Et ce qui m'a semblé, en fait, c'est qu'on a sans cesse l'impression qu'il échappe, sans cesse l'impression que ce qui compte, c'est non pas d'avoir vu Raspoutine et de le décrire tel qu'il est, mais d'interpréter immédiatement, et surtout du point de vue moral, d'interpréter ce qu'on a vu. Non seulement de témoigner, de dire « moi j'ai été là et j'ai pu voir Raspoutine, j'ai pu approcher le phénomène, et moi je vais vous donner la vérité sur ce phénomène ».
Je connais bien cet homme. Ce qu'il vous dit est vrai.
Une nuit, je me suis réveillé et j'étais en sueur. C'est depuis ce temps que je marche.
C'est la voix de Dieu que tu as entendue, c'est lui qui t'a parlé.
Je ne suis pas assez savant pour répondre. Tout ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, il y a une force nouvelle en moi. Et que je vois des choses.
Quelles choses? Que vois-tu donc?
Des choses. À l'intérieur des gens, des choses qu'ils ne disent pas.
Tu veux dire que tu lis dans leurs âmes?
C'est comme ça. C'est tout ce que je peux dire.
Est-ce vrai que tu crois au diable?
Je sens sa présence. Il me tend des pièges. Il voudrait que je renonce à aller là où ma voix me dit d'aller, mais je sais me défendre.
Je respectais l'interdit familial.
Je peux partir?
Il est clair que mes parents voulaient nous protéger de cette réputation d'enfer qu'on lui faisait. J'ai eu...
Laurence Huot-Solofieff.
Un choc. J'avoue que, étant jeune, quand même, quelque chose m'a vraiment fait comme une espèce de coup de poing dans l'estomac. Quand mon professeur d'histoire nous a parlé de Raspoutine, en mauvais termes, évidemment... En me regardant. Alors, est-ce qu'il était au courant de quelque chose? Est-ce que c'est une coïncidence? Ça m'a fait comme un violent choc.
Raspoutine incarne, je dirais, le malheur russe plus réellement que cela.
Jean-François Colosimo.
Parce qu'il y a une confusion complète à travers lui du véritable registre de ce qui fait la grandeur de la Russie. Cette spiritualité, ce recours aux forêts, cette lointaine Sibérie avec ses fleuves, cet espace, et cet espace, je dirais, qui est habité en quelque sorte. Dimension de verticalité, dimension de poésie, dimension du fait que finalement l'existence humaine est irréductible à des équations. Tout ça est vrai, mais prendre Rasputin comme exponent finalement de cette équation, c'est pas rendre service à la Russie. Mais nous aimons que la Russie finalement nous fasse peur, c'est ça. C'est l'image à la Belphégor de la Russie, un pays incontrôlable, un pays immaîtrisable, et finalement une sorte d'envers de notre rationalité cartésienne, un pays de superstition.
Le monde originel de Rasputin, c'est le monde sibérien.
Yves Ternon.
C'est l'outre-Oural, la province de Tobolsk. Donc on est dans une région qui n'a pas tellement subi toutes les variations de modernisation de la Russie et qui a ses traditions. Ce n'est pas le monde du servage. Et donc c'est à travers cette situation géographique particulière de ses origines qu'il faut analyser la vie de Rasputin, en sachant d'ailleurs que tout au long de sa vie, il va revenir régulièrement dans son village de Pokrovskoye. Donc il ne faut pas croire que Rasputin va à Saint-Pétersbourg et qu'il y demeure tout le temps. Sans arrêt, même quelques mois avant sa mort, il retourne régulièrement à Pokrovskoye. Qu'il y soit contraint par des punitions ou qu'il vienne régulièrement voir sa famille.
Sa maison à lui, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de maison. Yeltsin a fait raser tout ça. Et je dois dire que sur le chantier, deux démolitions de cette maison. Chacun des villageois a pris un petit bout de la maison. Voilà, on a chez soi, en guise de relique, un petit bout de la fenêtre, un petit bout de la porte. Et les gens là-bas, ils savent très bien où ils habitent, ils sont très contents. Écoutez, ils ont un grand respect pour lui. Moi, quand j'y vais, si on ouvre les portes, ils me prennent les mains. Et ils n'en reviennent pas. J'ai cette photo de cette femme qui me tient par une main et qui me dit Bojemoy. Il n'en croit pas ses yeux. Ça veut dire mon Dieu.
Oh, Ega. Oh, духи. Oh, высшие духи. Oh, духи. Господи, Господь наш повелитель, дух повелителя нашего. Аминь.
Ce que l'on sait, c'est qu'il est né dans un milieu assez aisé de petits propriétaires terriens. Qu'il a été très marqué dans son enfance par un accident où il a failli se noyer, où son frère est resté mort. C'était un garçon assez paresseux, vantard, qui avait du succès parmi les filles très rapidement, qui a été obligé d'épouser une fille qui ne voulait céder qu'en ce cas, et qu'ensuite il a eu une grosse douleur, ils ont perdu leur premier fils de 6 mois. Et qu'à ce moment-là, donc, il a 30 ans, la vie de Rasputin bascule et il devient donc un religieux, si je puis dire.
1892 est une date importante pour Rasputin, Yves Ternon.
Oui, c'est justement la première date où Rasputin, qui va avoir 30 ans, va partir en religion. Il va voir un Starets, qui est une sorte de pieux personnage vivant retiré. Et là, il se convainc qu'il a le choix entre deux solutions pour vivre sa vie religieuse. Soit la prière, l'isolement, le recueillement, le retrait, la vie de Starets. Soit l'errance, la vie de Stranik.
Et il a fallu, en quelque sorte, des coups du sort pour que Rasputin se fasse d'abord pèlerin, Stranik, comme on dit en russe, allant d'abord dans les monastères sibériens, et puis de plus en plus loin, et jusqu'à, dit-il, au mont Athos, on n'en a aucune preuve, mais peu importe. Et ensuite,
entre dans les académies de théologie, d'abord à Kiev et puis ensuite surtout dans la capitale impériale, Saint-Pétersbourg, et enfin est la carrière dans cette fameuse capitale, dans les salons d'une certaine élite conservatrice d'abord et puis ensuite à la cour, pour donc que ce paysan qui était voué à n'avoir aucune histoire, comme des millions de ses pareils, eh bien, est une histoire extraordinaire, permise par la société de l'époque. Il y a dans les archives de Rasputin, puisqu'il y a un fonds Rasputin aux archives nationales russes, où il y a un grand nombre d'écrits apocryphes, mais il y a un certain nombre d'écrits qui sont de la main de Rasputin, et on voit qu'il a une graphie extrêmement peu maîtrisée. Donc son niveau d'éducation est faible, mais pour le rôle qu'il s'est créé, pour le personnage qu'il a joué, eh bien, il n'y a pas besoin d'être justement un grand clerc, il n'y a pas besoin d'être un érudit. Ce qui a frappé ses contemporains, y compris les plus grands théologiens de l'époque, par exemple Jean de Kronstadt, c'est le fait qu'il était capable d'interpréter à sa manière la Bible, qu'il avait une vision complètement originale et qu'on a qualifié très vite de vision populaire, paysanne, justement le genre de renouveau dont on avait besoin au plus haut niveau du clergé, parce qu'on voyait bien avec inquiétude la déchristianisation qui était à l'œuvre en Russie comme partout ailleurs dans le monde industrialisé ou en train de s'industrialiser.
Qu'une créature de Dieu succombe au péché, c'est dans l'ordre des choses. Si Dieu nous a fait comme nous sommes, avec nos appétits et nos faiblesses, ce n'est pas un hasard. Se repentir, mes frères, c'est redevenir un petit enfant dans les bras du Seigneur. Et le pardon de Dieu est ce que nous pouvons espérer de mieux sur cette terre.
Le fait qu'il parle par parabole, qu'il ait un regard original, peut-être à la limite de celui de, qu'on appelle en Russie des folans Christ, hein, des hommes qui sont moitié fous, moitié lucides, nous révèlent en fait une nouvelle vision contemporaine de la parole christique, adaptée donc à la situation, a joué dans sa notoriété.
Il faudrait que tu nous suives. On nous a rapporté certaines de tes paroles. Notre supérieur voudrait que tu t'expliques.
Alors Rasputin, selon l'autobiographie donc qu'il a livrée, aurait vu la Vierge. Quelque chose de très banal finalement. En tout cas, il s'en vante. Le seul souci, c'est que, alors que dans n'importe quel autre endroit, et surtout en Sibérie, où la foi est très particulière, où elle est très matérielle, où elle est très associée à des autels, à des amulettes, bon, tout le contexte païen animiste joue évidemment dans cette zone, plus le fait qu'il y a beaucoup de sectes qui se sont réfugiées à l'abri dans les forêts de Sibérie et dans les grands espaces. Or, il n'y a eu aucun culte local voué à cette apparition, ce qui est étrange. Par ailleurs, dans tous les premiers témoignages, toute la manière dont Rasputin est présenté, il n'y a jamais mention de cette rencontre avec la Vierge. Bon. L'autre aspect, c'est la rencontre avec un séminariste qui l'aurait transporté sur sa carriole, qui lui aurait parlé de la foi à ce jeune paysan plutôt violent, bagarreur, alcoolique, en tout cas tel qu'on imagine un paysan à l'époque.
Dans ce contexte, est-ce que son appartenance à la secte des Clistes est possible, qui s'opposait, eux, au clergé d'en haut, Alexandre Zumpf?
Oui, c'est tout à fait possible. Le problème est que on n'en a pas non plus de certitude, et que finalement, cette appartenance, si elle a joué sans doute un rôle dans la première partie de la vie de Grigori, quand il était en Sibérie, quand il s'est fait pèlerin, n'a ensuite joué qu'un rôle négatif, à savoir que ça a servi de véhicule aux attaques portées très tôt contre lui. À mon avis, autant que je puisse en juger après la lecture de toutes les sources, et y compris de toutes les rapports de la police politique, l'Okhrana, à son sujet, une fois qu'il arrive à Saint-Pétersbourg, ce lien, s'il a existé, se détend totalement.
Oh.
pourquoi on a qualifié Rasputin de Starets?
Le Starets, c'est l'homme qui a reçu la grâce et qui peut guider les autres. C'est l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Mais ce personnage-là, il a normalement un parcours très défini. Il est rentré dans un monastère. Il a fait obéissance à un père spirituel, à un autre Starets, qui lui a transmis finalement ce savoir. Il est resté silencieux. Il ne s'est pas manifesté. En fait, c'est petit à petit la congruence du peuple autour de lui, de tous ces gens qui viennent demander une parole de salut. Évidemment, les paysans, mais très bientôt aussi les intellectuels venus de Saint-Pétersbourg, de Moscou, les écrivains. Hein, cette cristallisation face à un miracle, une épiphanie, une parole qui vient d'ailleurs, une parole qui vous illumine, une parole qui vous sauve. Mais c'est en fait une contre-institution au sein de l'institution qu'est l'Église et de cette autre institution qui est le monastère, institution très hiérarchisée. Alors Rasputin, ben, il ne souscrit à aucun des critères. Il n'est pas moine, il a fréquenté vaguement les monastères, mais bon, fréquenter un monastère en Russie à cette époque-là, c'est comme dire aujourd'hui, je suis allé au concert, n'est-ce pas? Il n'a pas pris de vœux, il n'a pas eu de transmission, il n'a obéi à personne, et finalement, il s'improvise en quelque sorte comme un Starets pour Jean Fortuné, pour la noblesse, pour l'aristocratie, qui comme ça n'a pas besoin de faire le voyage, ne risque pas non plus de se confronter à des exigences morales ou autres, ou à une épreuve de vérité, parce que la rencontre avec un Starets, normalement, c'est une épreuve de vérité, et il s'accapare ces pouvoirs supposés du Starets qui ne définissent pas le Starets totalement, qui sont effectivement la capacité de faire opérer le surnaturel dans les événements de la vie courante. En fait, il prend l'habit du Starets, mais c'est clairement un mage.
Comment qualifier les dons de Rasputin?
Alors ça, c'est très difficile, parce qu'on entre dans la légende noire de Rasputin. Il y a des choses qui sont certaines. Il n'est pas un chaman. Il n'est pas un cliste. Il n'est pas un magnétiseur, parce qu'il n'applique pas directement ses mains. Il n'est pas un hypnotiseur, car il a obtenu des guérisons bien avant d'avoir, en 1913, suivi des cours d'hypnotisme. Je pense qu'il communique par la force de son regard et de sa conviction aux personnes qui ont véritablement une propension à recevoir ses messages, une conviction donc qu'il est un guérisseur.
Это очень прекрасно. Прекрасно вас видеть, прекрасно вас слышать. И дорогие мои, радостные люди, которые мне дали счастье, которые мне дают радость. И в этот день, когда я чувствую эти дни, и в этот день, когда я чувствую дальше, что я живу самой прекрасной женщиной в этой мире. Радость, благо, это радость и жизнь.
Ses pères, si je puis dire, dans l'Église orthodoxe, c'est-à-dire l'archimandrite Théophane, l'évêque Hermogène et surtout le prêtre Héliodore, vont comprendre qu'il faut l'introduire auprès du tsar et qu'il va être leur agent, qu'il va être leur intermédiaire et qu'ils vont pouvoir le contrôler complètement. Et ce qui se révèle évidemment complètement faux. Donc, il n'est pas introduit directement auprès du tsar. Ce sont des étapes successives qu'il va franchir. D'abord, il va être au contact de salons. Et puis, dans un des salons, il rencontre une dame, Olga Loktina, qui plus tard deviendra sa maîtresse, d'ailleurs, qu'il guérit d'une neurasthénie, ou qu'il prétend guérir d'une neurasthénie. Et à partir de là, de salon en salon, il va pénétrer dans le fameux salon Ignatieff, où opère celle qu'on appelle les sœurs noires, c'est-à-dire les sœurs monténégrines, les filles du roi de Monténégro, qui ont épousé, ou qui vont épouser pour l'une d'elles, des grands ducs. Donc là, il arrive vraiment dans la hiérarchie proche. Et puis par l'intermédiaire, donc les sœurs noires pratiquent le spiritisme. C'est-à-dire qu'elles vont faire parler les morts. Il est évident que Rasputin n'a aucun don pour cela, mais enfin, il est dans ce milieu. Puis il va d'étape en étape rencontrer la femme donc d'un officier Viroubov, qui va devenir Anna Viroubova, et qui sera vraiment la femme qui, d'un bout à l'autre, l'a conseillée, l'a aidée, et qui est en même temps l'amie de la tsarine Alexandra. Donc, à partir du moment où il rencontre le couple impérial, et puis quelques années après, où il est vraiment admis au contact du couple impérial, Rasputin entre dans cette légende.
Dans les grandes villes, bien, il y a le choc, l'exode rural, le déracinement, et chez les élites particulièrement, qui sont des élites qui, elles, se veulent européennes, qui ne sont pas tournées vers le centre du pays, qui ne sont pas tournées vers le village, qui ne sont pas tournées vers les confins de la Sibérie, il y a aussi une forme d'exaltation illuministe. Les fraternités un peu ésotériques, occultistes, fleurissent. Et puis, on s'intéresse aux mouvements sectaires qui ont toujours abondé en Russie, ces mouvements où on se châtre pour être plus près du royaume de Dieu, ces mouvements où on s'inflige des flagellations pour en quelque sorte expier, n'est-ce pas ? L'expiation, c'est un grand thème russe, n'est-ce pas ? Nous sommes tous pécheurs, il nous faut tous expier. Et donc, en fait, il y a une espèce de collusion entre cette effervescence religieuse et le fait que la Russie s'affirme au même moment comme une grande puissance, mais on va vite le voir, un colosse au pied d'argile.
Bien avant l'arrivée de Rasputin, autour de la cour impériale gravite un certain nombre de guérisseurs, dont le principal a été le docteur Philippe de Lyon, qui a essayé ensuite d'annoncer Rasputin en quelque sorte en disant qu'un vrai guérisseur viendrait. Il y a eu tout un tas de fous autour du couple impérial. Il était en quelque sorte annoncé, pressenti comme le guérisseur.
La tsarine, faut le rappeler, n'était pas née orthodoxe. Elle est allemande, non prussienne. Elle a grandi dans un milieu aristocrate. C'était une des petites filles préférées de la reine Victoria. Donc elle a grandi dans un milieu protestant. Et pour épouser, c'était un mariage d'amour, Nicolas II, elle a dû se convertir. Et les nouveaux convertis, on le sait, sont souvent beaucoup plus vifs, beaucoup plus imprégnés de religiosité que ceux qui ont hérité leur religion de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Par ailleurs, et ça c'est Hippius qui le dit, et je pense que c'est une phrase très, très lucide, comme souvent chez Hippius, elle avait constaté chez la tsarine le besoin de toucher pour croire, un peu à la Saint Thomas. Elle multipliait chez elle les petites icônes précieuses, les amulettes, c'était toujours elle qui entraînait sur la voie des pèlerinages son époux, qui avait quand même un peu d'autres choses à faire. Et on le voit bien dans la correspondance qu'ils échangent pendant la guerre, quand le tsar part à Mogilev, à l'état-major, donc à plus de 1000 km de Petrograd. Elle lui envoie constamment une petite fiole d'eau bénite par Rasputin qu'il faut qu'il boive, un petit peigne béni avec lequel il faut qu'il se coiffe le matin dans tel sens. Et il le fait. Et il le fait pourquoi ? Non pas tant parce qu'il y croit, mais parce que il connaît la religiosité de sa femme, il connaît l'importance pour elle de Rasputin, et pour lui ce sont des gestes qui ne comptent pas grand chose, et par lequel il va continuer à avoir cette relation intime, amoureuse avec sa femme. Dans cette cour donc où on s'ennuie beaucoup, replié sur elle et où on est très pieux, à Tsarskoye Selo, il y a un grand secret qui n'est révélé qu'en 1912 aux Russes, c'est le secret de la maladie du tsarevitch, Alexis, son hémophilie, héritée en plus de sa mère, donc vous imaginez la culpabilité de la mère, c'est une maladie génétique qui se transmet par les femmes, mais seulement aux hommes de la famille.
Donc, au moindre choc, au moindre traumatisme, le petit tsarevitch, qui est l'espoir de l'Empire, hein, parce que l'Empire se transmet en général dans une descendance de père à fils, si le tsarevitch meurt, c'est toute l'autocratie qui est menacée. Et en 1913, le tsarevitch a un hématome très grave à la suite d'un accident sortant d'un bateau. Ensuite, l'hématome à la cuisse est énorme. Les médecins pensent qu'il va mourir. Ils ne peuvent absolument pas le guérir. La tsarine, par intermédiaire, je crois, d'Anna Viroubova, télégraphie à Rasputin. La fille de Rasputin dit que quand il apprend ça, Rasputin se recueille, qu'il entre en transe. D'où de l'idée du chaman, vous voyez, qu'il va ensuite télégraphier, ne t'inquiète pas, il va guérir. Et il y a quand même ce mot qui est important, dit au médecin d'arrêter de lui faire du mal. Alors, on m'a traduit ça en disant, il lui donnait de l'aspirine. L'aspirine est un anticoagulant. Est-ce que les médecins, s'ils arrêtent l'aspirine, vont arrêter l'hématome? Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. C'est une hypothèse. Mais Rasputin ignorait évidemment que l'aspirine était un anticoagulant, donc faisait saigner. Il est devenu nécessaire pour la tsarine de l'avoir auprès de lui.
Mon maître aimé est inoubliable, mon sauveur est précepteur. Comme il m'est pénible d'être sans toi. Mon âme n'a de quiétude et de repos que quand tu es assis, mon maître, près de moi, et j'embrasse tes mains et j'incline ma tête sur tes épaules bénies. Oh, comme je me sens légère alors. Alors je ne souhaite qu'une chose, m'endormir. M'endormir pour des siècles sur tes épaules, dans tes bras. Alexandra.
Il faut que le tsarévitch vive, il faut qu'il puisse être guéri chaque fois qu'il a un accident, et Rasputin est l'homme qui, dans son esprit, peut le guérir. Il est l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu, et on lui avait annoncé déjà au tsar aussi. Donc on est dans cette mystique complètement dérivée, hors de toute rationalité, qui fait que les lettres de la tsarine communiquent pendant la guerre. À partir de 1916, le tsar prend le commandement. Il est à la Stavka, au commandement général, et la tsarine va quelquefois le voir, mais en général, elle lui écrit tous les jours. Elle lui écrit des lettres de plusieurs pages. Et sans arrêt, elle donne la vie de notre ami. C'est notre ami, suis ce que dit notre ami. Donc l'influence de Rasputin à travers cette tsarine mystique est considérable. Alors évidemment, quand on entend parler de cela, on se dit il a été l'amant de la... Non, il n'a jamais touché, ni, ça s'est prouvé, ni à la tsarine, ni aux petites jeunes femmes aux princesses impériales.
Rasputin a vécu, à ceci extraordinaire, qu'il a vécu plusieurs vies, et qu'en outre, on lui a fait vivre un grand nombre de vies bien largement supérieures à ce qu'il aurait pu vivre de son vivant. Sa première vie, vraisemblablement, était plutôt celle d'un puceau violent, alcoolique, hableur, qui n'avait pas beaucoup de succès auprès des femmes. Il n'était pas connu dans son village pour être le séducteur du village, le coq du village. En tant que Stradnik, même s'il a été accueilli par des femmes seules, etc., il n'a pas non plus... sa réputation ne l'a pas précédé. Il faut vraiment attendre son arrivée dans les cercles les plus élevés de la société et de l'aristocratie pour que sa réputation s'établisse. Alors, là encore, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est la fascination qu'il exerce sur les femmes qui fait que celles-ci veulent consommer, en quelque sorte, veulent toucher au plus près l'homme saint, jusque dans ses parties intimes, et que plus on est proche de lui, plus on va être sanctifié? Est-ce que lui-même pratiquait à l'archliste une sorte de bénédiction par les attouchements sexuels qu'il pratiquait, sans doute? On ne sait pas vraiment s'il allait jusqu'à consommer. Hein, ça, c'est quelque chose qui fait débat. Toujours est-il que après la tentative d'assassinat dont il fait l'objet à l'été 1914, il revient complètement transformé à Saint-Pétersbourg. Il prend un appartement bien plus grand, qui fait salon, il reçoit beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de solliciteurs, et il mène une double, voire une triple vie. Triple vie partagée entre les sollicitations le jour, les orgies la nuit, qui sont avérées, attestées, où qu'il soit, dans lesquelles on l'entraîne, dans lesquelles il se complaît, et puis, faisant partie de ces orgies, les visites aux prostituées. Et enfin, le troisième tableau, le troisième décor de sa vie, c'est Tsarskoye Selo, la petite maison d'Anna Virobova, où il est appelé, et où il arrive, manifestement, en ayant réussi à se recomposer une figure, à se recomposer un personnage, et même ivre-mort, à arriver totalement lucide. Et ça, c'était sa force. Ce que moi, j'ai constaté, c'est qu'à l'époque, dans le milieu qu'il fréquente, c'est un poète, Alexandre Bloch, qui le dit, à peu près la moitié des hommes sont atteints de syphilis. Or, jamais, pourtant Dieu sait qu'il a été victime de calomnies, d'assauts, d'attaques, jamais on a accusé Rasputin d'être syphilitique. Et ça, c'est incompréhensible. Avec sa fréquentation des prostituées, avec sa fréquentation de toutes ces femmes, un homme comme lui ne pouvait pas ne pas être syphilitique à Saint-Pétersbourg en 1914, en 1915. Or, L'autopsie ne l'a pas montré, il n'avait aucun chancre sur son corps, donc d'aucuns pourraient dire « mais oui, ça prouve qu'il est saint !» Évidemment qu'il est incorruptible et incorrompu. Moi, je pense qu'il y avait là matière à réflexion sur la véritable dimension de sa sexualité. Son hypersexualité, de toute façon, est l'un des arguments principaux, de même que ses orgies alcooliques qui ne sont que très cantonnées, hein, qui ne sont cantonnées qu'aux années 1914-1916, un des arguments principaux contre lui. Voilà.
J'y suis inaccessible au désir. Dieu m'a accordé ce don en récompense des pénitences que je me suis imposées. Toucher une femme, c'est pour moi la même chose que toucher une planche. Je dirige mon désir de cet endroit de mon ventre vers ma tête, vers ma cervelle, et alors je suis invulnérable. Et si une femme me touche, il est délivré de ses désirs luxurieux. Voilà pourquoi les femmes courent après moi. Ils voudraient bien prendre du plaisir, mais elles craignent de perdre leur virginité ou tout simplement ont peur de pécher. Alors, elles viennent me demander de les délivrer de leurs désirs charnels, de les rendre insensibles, comme je me suis moi-même.
Son rapport à l'argent, Alexandre Zumpf, qu'est-ce qu'on sait de ses ressources financières? Il recevait, vous le dites, beaucoup, beaucoup de monde à partir de 1914.
Elles sont assez énigmatiques. On sait que la tsarine a financé sur des fonds exceptionnels l'allocation de ses deux appartements, celui de l'avenue d'Angleterre et celui de la rue Gorkhovaya, mais qu'elle était relativement pingre. Autant elle va éditer sur papier luxueux les souvenirs du voyage à Jérusalem qu'il a effectué en 1911, autant elle ne va pas évidemment lui financer ses nuits d'orgie et ses visites aux prostituées. Mais Rasputin n'en a pas besoin. Rasputin, c'est Alain Delon, c'est Gérard Depardieu, il ne paye rien, c'est une star. Où qu'il apparaisse, on va lui payer à boire. Où qu'il apparaisse, les tziganes vont chanter pour lui. Et il n'a pas la vie du commun.
Mon invité d'honneur ce soir. Il y a bien des années, j'étais encore enfant, j'ai fait une vilaine chute de cheval, et si je remarche aujourd'hui, c'est grâce à mon ami Grisha.
Musique.
Iliodore. C'est lui, hein, Iliodore, qui révèle des lettres échangées entre Rasputin et la tsarine.
Oui, Iliodore a eu la chance d'être un intime de Rasputin et d'avoir invité à plusieurs reprises à Pakrovskoye, donc le village natal de Rasputin, où il a fait construire une izba assez luxueuse. Donc dans cette izba, il a dérobé les lettres en fait assez anodine qu'a envoyé non seulement la tsarine, mais aussi les filles du couple impérial, chacune selon leur âge, les unes confessant un amour secret, les autres demandant quand le brave Grigori va revenir. Bon, ce qui a choqué l'opinion, ce n'est pas tant les quelques phrases un petit peu ambiguës de la tsarine, mais le fait que la tsarine et que ses altesses impériales écrivent à un simple moujik. Même si on sait que le tsar dit oui, le peuple paysan, Ivan Soussanine, Séraphin, on va le canoniser, etc., on n'imaginait pas qu'ils allaient s'abaisser à écrire à cette personne qui est alors assez inconnue, mais qu'après 1912, tout le monde connaît. Donc oui, il a eu ce rôle, mais c'est un rôle qui n'a fait que renforcer, en fait, d'une part, la réputation de Rasputin, le transformer en véritable star médiatique, en objet de convoitise et d'attention, et en sujet de débat dans l'opinion publique, et puis d'autre part, le renforcer auprès des tsars. Hein. Plus on l'attaquait, plus il était fort.
Alors, c'est au moment de la guerre que les choses ont pris une autre dimension.
Hélène Carrère-Dancos.
Les désordres sociaux sont réels, il y a eu des grandes grèves en 1912-1913, il y a une fusillade véritablement des grévistes en Sibérie sur les grévistes de l'ALENA qui étaient, ça a été un vrai massacre. Et d'une certaine façon, il est probable que l'empereur peut être tenté, comme il l'avait été en 1904 avec la guerre russo-japonaise, de penser qu'une diversion extérieure n'est pas totalement inutile. En 1904, c'est ce qu'il avait fait. Et il avait perdu la guerre russo-japonaise. En 1914, on est tout de même en plein dans l'alliance franco-russe, dans les merveilles de cette alliance. Et du même coup, je dirais, la Russie se sent impliquée dans le désordre qui s'installe dans les... Et le souverain est certainement, en tout cas, décidé à rester fidèle à son alliance. Et Rasputin, là, a été véritablement le conseiller de la prudence. Et c'est lui qui aura répété à Nicolas II que se lancer dans la guerre, c'est probablement signer la fin de la monarchie. Donc on voit qu'il y a chez lui une lucidité sur des choses, comme sur le problème paysan. On peut dire qu'il est, il n'est pas seulement un conseiller de malheur. Il peut être un conseiller de la sagesse.
Ce grand pouvoir.
Alexandre Kerensky, 1953.
Faiseur de miracles, il l'utilisait pour peu à peu commencer à donner des conseils. Et enfin, pendant la guerre, justement, dans le petit comité de l'impératrice, il était comme oracle. Il avait donné des conseils, il a choisi les ministres. Si les ministres nommaient. N'exécuté par ses ordres et cette ministre était démissionnée très vite. Alors c'était quelque chose absolument apocalyptique. C'est quelque chose qui n'était pas dans la logique de l'histoire. Naturellement, Rasputin, c'était un symptôme seulement de la décomposition de la dynastie. Il était toujours au palais et après dans les milieux les plus basses. Du peuple entre les paysans. Il savait la mentalité, il savait la psychologie, il savait les situations.
Alexandre Kerensky, le chef du gouvernement provisoire en 17, lui refuse tout programme politique. Qu'est-ce qu'on sait de l'influence de Rasputin sur la politique du tsar?
Rasputin a évidemment commencé par jouer un rôle influent dans les matières ecclésiastiques. Et de ce point de vue-là, son influence est indéniable. À la fin de son règne, on considère qu'en gros, un tiers des évêques étaient des Rasputiniens, c'est-à-dire avaient été promus, souvent en dehors de tout cursus honorum d'ailleurs, et à la barbe de théologiens bien plus capés, par Rasputin qui s'était constitué un groupe de fidèles, un peu comme Staline le fera plus tard au sein du parti bolchevique pour prendre le pouvoir. Les procureurs du Saint-Synode, donc ceux qui sont à la tête de cet organe aidant le tsar à diriger l'église orthodoxe russe, les deux derniers ont été nommés sur instance de Rasputin. Donc ça, l'influence est indéniable. Elle est moins claire en termes de théologie. Donc c'est surtout pour des postes, mais très peu dans la manière dont l'Église orthodoxe régit la foi des fidèles. Bon. La deuxième matière, c'est en politique intérieure. On peut dire là que de ce point de vue-là, Rasputin n'a eu aucune influence jusqu'à la guerre et jusqu'au départ du tsar pour le grand quartier général de Moguilev. Là, il faut dire que Nicolas II se désintéresse un petit peu des questions intérieures, qu'il laisse son gouvernement gérer les affaires quotidiennes et la tsarine l'informer. Et donc on a leur correspondance, elle a été publiée dès les années 20 dans toutes les langues, y compris en français. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point la tsarine cherche là aussi à constituer un groupe de fidèles, dont l'emblème est le ministre de l'Intérieur, Protopopov.
Le temps de l'indulgence et de la bonté est passé. Il faut les contraindre à s'incliner devant toi, à écouter tes ordres et à travailler comme tu le désires. Pourquoi suis-je détesté? Parce que l'on sait que j'ai une volonté ferme et que lorsque je suis convaincu qu'une chose est juste et en outre béni par Grigori Rasputin, je ne change plus d'avis. Et cela, ils ne peuvent le supporter. Notre cher ami t'a demandé de dissoudre la Douma. Sois donc Pierre le Grand, Ivan le Terrible, écrase-les tous sous tes pieds. Tu dois m'écouter. Chasse la Douma. Alexandra.
Jamais aucune décision diplomatique, à commencer par la déclaration de guerre, n'a été prise avec le conseil de Rasputin, et même au contraire. Rasputin était contre la guerre, Rasputin était pour certains slaves contre d'autres. Là encore, il faut voir que la tsarine aussi se servait des fois de la parole de Rasputin pour essayer d'influencer son mari. C'était un jeu à trois. Et en matière militaire, jamais au grand jamais, Nicolas II n'a écouté les conseils, pas forcément farfelus d'ailleurs, mais les conseils de Rasputin qui se cantonnaient à, en bon paysan, demander à ce qu'on épargne les vies des simples soldats.
Alors on parle de complot obscur de Rasputin avec la tsarine. De quoi il s'agit au fond, Yves Ternon?
Eh bien, il n'y a pas de complot. La preuve est faite. On a parlé de nombreux complots. On a parlé d'abord du complot allemand. On est pendant la guerre, la tsarine est d'origine allemande, et on considère Rasputin comme un agent allemand. Or, la preuve est faite que, par une enquête qui a été faite par le gouvernement provisoire en 1917, très précise, que Rasputin n'a jamais, ni la tsarine d'ailleurs, eu de relation avec des agents allemands, ni demandé une paix séparée au moment le plus dur de la guerre, donc en 1916. Bon.
Il y a une thèse assez récente qui fait état de la présence d'un agent secret anglais,
ah oui,
Alexandre Zumpf.
Tout ceci prêterait à sourire si aujourd'hui cette théorie n'était reprise dans des cercles assez proches du Kremlin et n'était politisée. Le meilleur symbole de cette reprise, ce sont les deux dernières productions audiovisuelles au sujet de Rasputin. Une production franco-russe, donc un téléfilm diffusé sur France 3 en 2011 avec Gérard Depardieu dans le rôle titre. Et puis un téléfilm en 8 épisodes produit en 2014 en Russie. Dans lesquels on voit que la leçon, la morale, c'est que Rasputin n'est plus ce débauché orgiaque, alcoolique, mystique, embobineur qu'il était considéré hein, lors de sa légende noire, de son vivant et juste après sa mort, mais Rasputin fait l'objet d'un mythe blanc. Ce mythe blanc, c'est que Rasputin représente le vrai peuple paysan, la vraie Russie et la vraie foi. Et qu'en tuant Rasputin, on a tué cette Russie et on a conduit la Russie à sa perte. La perte de l'autocratie, la perte de la Grande Guerre. Et que seuls des étrangers, et des étrangers à ce qui fait la vraie Russie, avaient la volonté, le désir de nuire à ce point à la Russie. Seuls ce qu'on appelle aujourd'hui dans la Russie poutinienne des agents de l'étranger auraient pu le faire. Donc la théorie effectivement de ce Lockhart, hein, qui a joué un rôle dans tout ça, mais il a joué un rôle comme bien d'autres agents, et souvent le jeu des agents secrets, il est à somme nulle, parce qu'ils s'influencent les uns les autres, ils sont double ou triple agents, etc. Donc il y a cette politisation, et au-delà de la question de l'agent étranger, il y a aussi la caractérisation de Yusupov comme un inverti, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire un homosexuel, qui a fait des études en Grande-Bretagne, qui aurait été l'agent de ce complot. Et donc on en revient à dire que qui est l'ennemi de la Russie? Les Occidentaux dépravés.
Rasputin, господа! В настоящее время опаснее, чем был когда-то Дмитрий! Господа министры!
Les discours à la Douma sont des discours publics qui sont imprimés et on s'exprime très librement. Il y a une véritable mise en accusation. Les orateurs parlent de la grande trahison qui pèse sur la Russie. Et la grande trahison, c'est le couple infernal, Rasputin et l'impératrice. On n'ignore pas d'ailleurs, on voit ça dans sa correspondance à l'empereur. Sur les conseils de Rasputin, elle donne des conseils militaires. Elle dit « engage tel régiment ». Ne fais pas d'attaque sur ce front, comme dit notre ami, car elle l'appelle notre ami te dit de faire ceci, et par conséquent, mène ce type d'opération. Bon, il est évident que ça se sait, et qu'il y a l'idée que véritablement c'est Rasputin et elle qui gouvernent non seulement le pays, non seulement qui maintiennent une pression sur le pays, mais que de surcroît, l'armée militaire est entre leurs mains, et que ça peut basculer dans n'importe quoi. Alors ça, ajouté à la peur d'une paix séparée. La paix séparée, c'est l'image de l'Allemande. Donc tout cela constitue une toile de fond extrêmement inquiétante pour la société et pour les milieux de la cour qui n'arrivent pas à se débarrasser d'elle. La question, comment se débarrasser de Rasputin? Puisqu'on ne peut pas se débarrasser d'elle, eh bien la question, comment on se débarrasse de Rasputin? Et c'est comme ça que sera monté le complot qui mettra fin à la vie de Rasputin.
Un complot qui est préparé depuis 2 ans. Il y a plusieurs attentats programmés contre Rasputin, dirigés par le ministre de l'Intérieur, par l'adjoint du ministre de l'Intérieur. Ces attentats sont connus. Et puis derrière, il y a la famille impériale. Rasputin a complètement échappé à l'Église qui le contrôlait, qui croyait le contrôler, qu'il donne au tsar exactement des conseils opposés à ce que souhaite l'extrême droite, qu'il condamne les violences antisémites qui se sont exagérées et qui ont devenu excessives pendant la période de la retraite de l'armée russe dans la zone en Pologne et dans la zone du territoire. Donc il est l'ennemi le plus important. Donc et comme il a une influence indéniable sur le tsar, que là aussi le mythe du complot fonctionne, que l'on croit qu'on négocie avec l'Allemagne par l'intermédiaire de la tsarine d'un autre ministre Protopopov, il est l'homme à abattre. Il est l'homme à abattre et Yusupov en est convaincu. Et on sera convaincu toute sa vie d'ailleurs. Et Félix Ioussoupov, qui est l'homme le plus riche de Russie, d'une grande dynastie de princes descendants du XVIe siècle, a une idée. Il dit il faut entrer en contact avec lui. On ne l'aura pas parce qu'il est quand même protégé par la police, le tsar, le garde, etc. On ne l'aura pas si on n'est pas devenu son ami. Alors, Ioussoupov s'associe à plusieurs personnages. D'abord, un médecin. Tout ça, on est dans le monde de l'extrême droite, qui va procurer le poison. Puis un autre qui va servir de chauffeur. Et puis surtout un autre personnage qui est Purishkevitch. Purishkevitch, c'est l'antisémite le plus célèbre de Russie. C'est le président de l'Union du peuple russe, c'est-à-dire les anciennes centuries noires. Et c'est un homme qui veut véritablement faire disparaître tout ce qui n'est pas en Russie le pouvoir autocratique absolu. Donc, il est d'accord pour organiser ce complot. Et puis, on met dans l'affaire le grand-duc Dimitri. Dimitri, c'est donc la famille impériale, très proche, c'est le cousin de Nicolas II. Et tout ce monde va ébaucher le programme du crime. Donc, c'est vraiment le crime prémédité, complètement organisé, prémédité. Le prince Ioussoupov a un certain charme. Un charme d'ailleurs très précis parce qu'il est manifestement ambisexuel, il est l'amant de Dimitri et il est aussi marié à la plus belle femme de Russie qui est la princesse Irina. Et puis il prépare le meurtre et il le prépare à date fixe parce que les travaux dans son palais doivent commencer le lendemain, ce sera le 16 décembre. Et Rasputin, évidemment, est ignorance de tout. On lui fait croire qu'il va rencontrer la princesse Irina. Il serait très heureux de rencontrer quand même cette princesse impériale. Rasputin n'en a parlé à personne. Ioussoupov vient le chercher et l'amène donc dans son palais où tout est préparé pour le meurtre.
Alain Decaux, Félix Ioussoupov, 1967.
Prince Félix Ioussoupov, vous avez tué Rasputin.
Oui.
Quel âge avez-vous, prince ?
Près de 80.
Quel âge aviez-vous quand vous avez tué Rasputin ?
29.
Prince, appartenez-vous à la famille impériale russe ?
Non, mais ma femme est la nièce de l'empereur Nicolas II.
Princesse, étiez-vous au courant du projet de votre mari ?
Oui, j'étais au courant.
L'aviez-vous approuvé ?
Oui.
Princesse, on a dit, on a même répété, que vous aviez été en quelque sorte l'appât dont se serait servi votre mari pour attirer Rasputin chez lui le soir du meurtre. Est-ce exact ?
C'est pas vrai du tout.
Pourquoi ?
Parce que je n'étais même pas là-bas. Vous n'étiez pas à Saint-Pétersbourg, j'étais en Crimée.
Prince, au soir de votre vie, lorsque vous repensez à Rasputin, quel sentiment éprouvez-vous à son égard ?
Le dégoût.
Aviez-vous un intérêt personnel au meurtre de Rasputin ?
Aucun.
Prince, dans des circonstances identiques, si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait ?
Oui.
Le prince Ioussoupov arrive avec Rasputin, il est le seul à parler avec lui, et puis il doit lui présenter et des gâteaux dans lesquels on a mis du cyanure. Il ne faut quand même pas oublier que le cyanure tue. Il n'y a pas de mithridatisation, le cyanure tue. Et puis, il y a des verres dans lesquels on a déposé aussi du cyanure. Alors, les récits sont énormes, différents. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ioussoupov a complètement pataugé. On ne sait pas s'il a mangé des gâteaux, quel gâteau il a mangé. Les verres de madère se mélangent un petit peu. On ne sait plus très bien dans quel verre il a bu. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'après avoir bu un verre, il tombe au bout de 2 heures parce que on n'arrive pas à s'en débarrasser. Les conspirateurs qui sont à l'étage au-dessus pataugent, s'impatientent. Le prince montre descend en disant ça va venir. Enfin bref, Rasputin tombe.
Hélène Carrière-Dancos, vous avez rencontré le prince Félix Ioussoupov avant sa mort, qui était l'instigateur de l'assassinat de Rasputin. Que vous a-t-il confié ?
Exactement, il racontait comment ça s'était passé, c'était très saisissant. Alors il dit, il a fini par tirer sur Rasputin. Alors ça c'est la grande question historique, est-ce lui qui a tiré ou pas, on ne sait pas. Il racontait son épouvante, c'était ça qui restait. Et lui raconte alors comment Rasputin, après qu'il lui a tiré dessus, qu'il est tombé, et que Ioussoupov, il mimait ça d'ailleurs, je ne suis pas la seule à qui il mimait ça, qui n'en pouvait plus d'énervement, s'est appuyé à sa table et comment tout d'un coup il a senti quelqu'un qui le prenait à la gorge, c'est-à-dire Rasputin qui se relevait. Bon, ça relève peut-être, ça faisait assez grand guignol. Impossible de dire si ça s'est passé comme ça, mais certainement, moi je me souviens de la manière dont Yusupov racontait ça. Il avait l'air complètement, je dirais, terrifié encore. Et il y a une chose qui est vraie, et ça je le sais parce que c'est sa femme qui l'a raconté à ma mère. Et elle disait tous les ans, pour l'anniversaire de la mort de Rasputin, Félix Yusupov s'enferme pendant 24 heures dans sa bibliothèque, dans une pièce où il y a des icônes, et au fond il jeûne et il prie. Car il conservait l'idée qu'il était un assassin. Tous ses proches le savaient, il était hanté par l'idée qu'il avait tué un homme.
Dimitri Plavevitch a-t-il eu un rôle précis dans l'affaire ? Si l'on en croit l'action de Nicolas II au lendemain de l'assassinat de Rasputin, il y a eu un blâme pour Yusupov qui a eu le droit d'aller dans une de ses propriétés pas très très loin de, finalement, de la capitale, alors que Dmitri Pavlovitch, qui était pourtant le cousin préféré du tsar, lui a été envoyé sur le front en Perse. Donc c'est une sanction bien supérieure. Par ailleurs, donc Rasputin a sans doute été tué à l'extérieur, en pleine nuit, avec une lune qui n'était pas pleine, sur un fond neigeux, à plus de 50 mètres. Seul un militaire de carrière est capable d'atteindre une cible, et le seul militaire de carrière qui était présent ce soir-là, c'était Dmitri Pavlovitch.
Si le meurtrier est Dmitri, c'est toute la famille impériale qui est en cause. C'est tout le régime qui est en cause. Donc, cette histoire n'a jamais été éclaircie parfaitement. Alors qu'il s'écroule dans le sol, dans l'entrée à l'extérieur, il y a un policier qui va venir, qui va prévenir ses supérieurs. Donc on sait qu'il y a eu un meurtre. Il y a des soldats qui arrivent, on leur dit de se taire, d'aider à charger le cadavre. On va jeter le cadavre dans un endroit de la Neva qu'on a repéré dans un trou de glace. Donc on sait où est le cadavre et puis on repère le cadavre. Donc moi je ne peux pas conclure, tous les documents se contredisent. Il y a d'abord deux versions complètement contradictoires qui sont le récit de Yusupov et le récit de Purishkevitch.
Je pense que finalement il ne tient qu'à un homme, et cet homme le symbole de cette fin d'empire, c'est la fin de l'empire romain mais en Russie en quelque sorte, que si on tue le symbole, eh bien tout va pouvoir se rétablir, qu'il suffit de supprimer en quelque sorte le virus pour que le corps de la Russie redevienne sain. Mais c'est parce que tous ces personnages qui sont complètement déconnectés des réalités russes ne voient absolument pas que ce qui menace la Russie, c'est d'une part cette guerre qu'elle n'a absolument pas les moyens de mener, et puis d'autre part cette ébullition sociale dans les campagnes et dans les usines qui renverse tout en février. Et qui ensuite conduit à sa deuxième révolution en octobre.
Rasputin, c'est le gris-gris qu'on agite pour conjurer un sort qui est déjà en train de se réaliser, qui est inéluctable, qui est fatal. C'est un gris-gris, c'est un totem. On est allé le chercher en Sibérie pour ça. Après sa mort, la légende va grandir, mais imaginons qu'il n'y ait pas eu véritablement de révolution russe, que la famille impériale n'ait pas été fusillée par les bolcheviks. Qu'on n'ait pas eu toute l'histoire sur Anastasia, vivante, morte, enfin, etc. C'est-à-dire, si finalement tout ça n'était pas rentré dans la légende de l'histoire, peut-être qu'on aurait gardé de Rasputin un tout petit souvenir, finalement, de quoi ? D'un amuseur, abuseur public. On n'aurait certainement pas fait de lui l'image de la Russie d'avant la catastrophe.
Rasputin, un moujik à Petrograd, avec Jean-François Colosimo, Hélène Carrère-Dankos, Laurence Huot-Solofiev, Alexandre Zumpf et Yves Ternon. Lecture, Doria Zénine et Anton Yakolev. Archivina, Clary Monac. Prise de son, Valérie Lavalard. Mixage, Alain Joubert. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omilanenko. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Rafik Zénine.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Elle sera suivie de la série documentaire consacrée par Marie Chartron à la Révolution russe. Dans quelques instants, Le temps des écrivains. Et la semaine prochaine, Une vie, une œuvre, Eddie Lamarre, créatrice ayant contribué aux liaisons chiffrées militaires, à sa façon à la téléphonie mobile ou la technique Wi-Fi, mais aussi actrice.